Le cinéma français est bourré de clichés, de stéréotypes. Une étude vient d'être menée sur le sujet. Alors, ce n'est pas la première fois, évidemment, qu'on souligne l'absence de diversité dans le cinéma. Mais cette enquête-là est marquante, d'abord par son ampleur. Elle a été réalisée à partir de 115 films. Et elle prend en compte aussi de très nombreux critères, pas que le genre ou la couleur de peau, mais aussi l'origine sociale, l'origine géographique, l'orientation sexuelle, l'âge et j'en passe. Bonjour, Maxime Servulle.
Bonjour.
Vous êtes l'un des auteurs de cette étude commandée par le collectif 50-50. Vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris 8. D'abord pour la méthodologie, rapidement, les films que vous avez étudiés sont ceux qui ont eu les plus gros budgets et ceux qui ont fait le plus d'entrées en salle durant l'année 2019. Et si je résume, au cinéma en France donc, le personnage principal est un homme blanc, cadre, hétérosexuel, citadin et en bonne santé ?
Voilà, c'est à peu près ça. Effectivement, nous, ce qui nous a intéressé avec cette enquête Cinégalité, c'était d'objectiver les différentiels de visibilité entre les différents groupes sociaux qui composent la société française et de poser la question des inégalités de représentation. Qui aujourd'hui est digne de fiction, d'une certaine manière, qui peut être représenté, quel récit on entend, voilà. Et de ce point de vue-là, on remarque qu'il y a des formes de décalage assez importantes avec la société française. C'est particulièrement net s'agissant des catégories socio-professionnelles, puisqu'on remarque que 51% des personnages pour lesquels on voit une activité dans le film sont cadres, et on a 4% d'ouvriers à l'autre bout du spectre, c'est-à-dire une vision non pas exactement inversée, mais presque inversée de la situation française. Il y a plus de 20% d'ouvriers en France et autour de 18% de cadres. Donc ça pose évidemment question sur le type de récits qu'on donne à voir.
Et quels sont les autres critères sur lesquels il y a un écart quand même flagrant ?
Alors, il y a un écart important s'agissant du genre des personnages principaux. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui assez loin de la parité. Il y a 38% de femmes parmi les personnages principaux. Et ce qui est assez frappant, c'est que le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui produit ce type de données pour la télévision, fait exactement le même constat. Et il y a cette espèce de plafond de verre de la représentation, comme ça, qui est à 38%, et on n'arrive pas à passer au-dessus.
Et il y a un deuxième plafond de verre aussi, c'est la femme de 50 ans. C'est-à-dire, la femme déjà est sous-représentée, mais alors la femme de 50 ans, elle est quasiment inexistante.
Absolument, il y a des variations, évidemment, dans ces représentations de genre, qui sont liées à l'âge. Donc, il y a ce qu'on peut appeler, avec l'association Actrices Acteurs de France Associés, qui avait identifié cela, un tunnel de la femme de plus de 50 ans. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, les rôles de femmes disparaissent. Et nous, on l'a constaté, c'est extrêmement important statistiquement. Il y a un autre constat qu'on peut faire aussi, c'est que parmi les femmes, une catégorie est particulièrement absente, c'est celle des femmes perçues comme non-blanches. Mmh. Où on a simplement 6% de femmes perçues comme non-blanches qui occupent une position de personnage principal.
Et ça, c'est encore plus que chez les hommes.
Ça, c'est encore plus que chez les hommes, où on a 13% d'hommes perçus comme non-blancs, qui sont personnages principaux.
À propos de cette catégorie, les personnages considérés comme non-blancs, il y a de la diversité, mais cantonnée à la jeunesse, vous dites dans les films.
Absolument, la diversité est cantonnée à la jeunesse, et très clairement, plus les personnages avancent en âge, plus la diversité
plus
régresse.
Ils deviennent blancs, c'est ça, un peu ?
Absolument, ouais. Absolument.
Et il y a aussi les rôles qu'on leur attribue. Ça aussi, vous avez étudié ça aussi.
Oui, on a aussi indexé des éléments narratifs. Mm-hmm. Par exemple, on s'est intéressé aux représentations de la délinquance et de la criminalité. Et là, on voit qu'il y a un fort marquage par les origines. C'est-à-dire que les personnages de délinquants, de criminels, sont fortement stéréotypés. En l'occurrence, ils sont 40% à parler une langue étrangère, ou à avoir un accent étranger. Et puis surtout, un personnage perçu comme noir à l'écran a trois fois plus de chances qu'un personnage perçu comme blanc d'être montré comme un délinquant ou un criminel.
Et est-ce que c'est pareil donc sur tous ces aspects-là, à la télévision ou dans les films produits par les plateformes ? Est-ce que vous avez pu comparer ?
Alors, pour les films produits par les plateformes, c'est compliqué parce qu'il y a une enquête qui a été réalisée aux États-Unis, mais elle a été financée par Netflix et elle sert sa communication, donc je pense que c'est des chiffres un peu fragiles. Ensuite, s'agissant de la télévision, on voit que sur le plan de la diversité des origines, le cinéma français fait un petit peu mieux que la télévision, en termes de nombre de personnes représentées. Par contre, ce qu'on constate quand même, c'est ce mode de représentation, cet enfermement dans des récits spécifiques, cette assignation à des rôles et à des figures de la marginalité. Donc ça pose question.
Est-ce que c'est pareil derrière la caméra? Est-ce qu'il y a un manque de diversité aussi dans les équipes de tournage? Est-ce que ça, vous l'avez étudié ou pas?
Alors, on n'a pas étudié la diversité dans les équipes de tournage. Par contre, ce qu'on a étudié, c'est la corrélation entre la place des femmes dans les équipes de tournage et le nombre de personnages de femmes à l'écran. Et ce qu'on remarque, c'est que effectivement, plus les équipes vont être mixtes, plus on va avoir de femmes à l'écran. C'est très net. Les films, par exemple, qui sont écrits, produits ou réalisés par des femmes, sont les seuls films dans lesquels on obtient la parité.
Donc ça, c'est déjà un facteur d'explication, parce que c'est justement ce que j'allais aborder avec vous. Comment on explique justement ce manque de diversité? Donc c'est d'abord lié au cinéaste, à la personne qui filme. Est-ce qu'il y a une responsabilité aussi des producteurs et aussi une responsabilité des spectateurs? Est-ce qu'il faut aussi qu'on se remette en question? Est-ce que, vous citiez l'exemple des héroïnes noires, il y en a très peu. Un film avec une héroïne noire de 60 ans, ça ferait pas d'entrée en salle?
Eh ben, je ne pense pas, justement. Peut-être qu'une partie des acteurs professionnels du secteur le pensent, mais nous, on a regardé justement, est-ce que les films qui ont fait plus d'un million d'entrées en salle, est-ce qu'ils ont une spécificité du point de vue des personnages qui les peuplent? Et effectivement, ils ont une spécificité, c'est qu'on y trouve deux fois plus de diversité en termes d'origine. Autour de 32% de personnages non blancs parmi les films qui sont plébiscités par les publics.
Bah donc faut y aller.
Absolument, il faut y aller, un peu d'audace. Et puis, il y a une nécessité, je crois, d'ouvrir les imaginaires et de faire des récits dans lesquels une large partie de la population peut se reconnaître.
Alors, comment faire? Comment on ouvre les imaginaires? En gros, comment faire pour apporter plus de diversité au cinéma?
Là, nous sommes à l'étape de la prise de conscience. Et je pense que c'est aux acteurs professionnels du secteur de se prononcer exactement là-dessus.
Après, cette prise de conscience sur certains aspects, sur le manque de femmes, le fait qu'il y ait trop de personnages blancs, comme vous le qualifiez tout à l'heure, à l'écran, ça c'est quelque chose qu'on en entend parler déjà depuis longtemps.
Alors, ça n'a jamais été quantifié pour le cinéma. C'est-à-dire que c'est un peu des idées préconçues, c'est une impression comme ça qui tourne. Mais la phase de l'objectivation, évidemment, elle est importante. Elle est importante pour les pouvoirs publics. Donc, en gros, l'idée, c'est d'avoir un outil à partir duquel on peut travailler. Et puis, comme vous le disiez, il y a des éléments que nous, on a indexés, qui habituellement le sont peu. Par exemple, on s'est intéressé à l'imaginaire géographique de la France. Comment on représente les territoires? Et là, alors personne ne sera étonné, il y a une centralité absolue de la région Île-de-France, quasiment un tiers des films, et évidemment une importance majeure de Paris. Et il y a très peu derrière de régions qui surnagent. Un petit peu les Hauts-de-France, un petit peu l'Occitanie. Et par contre, aucun département, territoire, région d'outre-mer.
Et donc il faudrait faire quoi pour développer ça? Ça vient des pouvoirs publics? Ça vient de quoi?
Je pense qu'il y a évidemment une responsabilité des pouvoirs publics. Alors, il faut noter qu'il y a des initiatives qui ont été lancées, qui sont tout à fait positives. Par exemple, le bonus parité qui a été mis en œuvre par le CNC sous l'impulsion de Françoise Nyssen, qui donc vise à soutenir l'intégration de femmes dans les équipes de production, de tournage. Et ça, on voit que ça a un effet. Nous, c'est ça qu'on a pu mesurer. Ça marche. Donc, il faut continuer dans ce sens-là. Et puis ensuite, il y a aussi une responsabilité, pour le coup, des acteurs professionnels du secteur à miser sur ce type de récit, à développer des talents qui peuvent porter ces histoires nouvelles.
Merci Maxime Servulle, co-auteur donc de cette étude très intéressante sur la diversité dans le cinéma français. Je vais citer quand même la personne qui a écrit cette étude avec vous, c'est Sarah Lécossais. Merci beaucoup, vous étiez l'invité du 5-7. France Inter.